Chapitre 17.
J'ai la date, claironna Wallace Claiborne en entrant dans le salon où l'attaché de presse tisonnait les bûches. Il débarquait de l'hélicoptère en tenue de maison blanche sous sa parka fourrée. Monseigneur Givens le suivait à petits pas circonspects, le duffelcoat recouvert de neige, verdâtre et engoncé dans son mal de l'air. Il s'assit sur une chaise droite, demanda si Jimmy était couché. Kim pianota sur son agenda électronique le code Smart Dust qui permettait de le localiser à chaque instant, acquiesça. En termes sobres, l'évêque commenta l'émoi qui s'était emparé du Saint-Siège à propos du dossier Oméga. Transmise par l'annonciature apostolique à Washington, la première réaction officieuse du Vatican était de demander au président Nelcott le silence le plus absolu sur l'existence du clone. « Il faut les comprendre !» sourit le juge Claiborne avec mansuétude, en frottant ses mains au-dessus des flammes. « Juridiquement, l'héritier génétique de Jésus peut très bien faire valoir des droits sur le patrimoine de l'Église. »«
Notre but n'est pas un hold-up, » rappela sèchement Irwin.
« Bien entendu. C'est pourquoi j'ai fait signer à Jimmy une lettre où il renonce à toute prétention d'ayant droit. » Par retour de courrier, la secrétairerie d'État l'a convoqué devant la commission d'examen de la Congrégation pour la cause des saints le 7 décembre à 8h15. Un cri d'enthousiasme emplit la pièce. On se serait cru dans un club de supporters à l'annonce d'une sélection internationale. Irwin se dressa, ulcéré, leur jeta. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous envoyez votre champion à Rome pour qu'il vous rapporte une médaille ? Vous croyez que ça va se passer comme ça ? Je vous rappelle qu'au bout de 20 siècles, l'Église n'a toujours pas reconnu le linceul comme relique officielle du Christ. »
« Ils seront bien obligés maintenant, » tonna Buddy Cooperman. « On leur apporte sur un plateau la preuve vivante. »«
Et vous en avez fait quoi, de la preuve vivante ? Un automate qui récite les psaumes en araméen, bonifie le vin et rassit le pain. Un zombie mortifié, une descente de croix, un top modèle sulpicien, mais le message d'amour, la condamnation des puissants, la révolte. Vous l'avez décervelé pour lui greffer vos connaissances, vos théories, vos ambitions, vos obsessions. » Chacun de vous a modelé Dieu à son idée. Chacun de vous s'est fabriqué son clone. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous avez renforcé sa part divine en le déshumanisant ?
C'était une étape, répondit Buddy Cooperman, placide, en reposant son verre de brandy. Maintenant, on va passer en phase active. Souffrance ambiante, misère et compassion.
L'héroïcité des vertus, confirma Monseigneur Givens, à qui un GI de service venait d'apporter une tisane. C'est en effet capital pour le Vatican. Aux démonstrations paranormales, la Congrégation pour la cause des saints préférera toujours la modestie et le dévouement. Il nous reste 3 semaines.
On peut l'envoyer sur le front des inondations en Inde, proposa l'attaché de presse, qui entretenait le feu avec les dizaines de journaux qu'il recevait chaque jour.
« Trop médiatique pour l'instant, » objecta Buddy. « Rome pourrait nous accuser de vouloir faire un coup. »«
La famine en Afrique, » suggéra le nutritionniste.
« Et pourquoi pas un stage d'accompagnant à Lourdes ?»
jeta violemment Irwin.
« La plus grande concentration mondiale de paralysés, d'aveugles, de mourants. Le mélange hystérique de foi, d'impuissance, d'injustice et de désillusion. Il passera inaperçu là-bas s'il guérit quelqu'un. » On imputera le miracle à la Vierge ou à l'eau de la grotte. Et si ça ne marche pas, il n'y aura pas de témoin. Et ça fera bien dans son dossier qu'il ait joué les brancardiers bénévoles, reçus avec mention chez vos pantins de la curie.
Au milieu de la consternation générale, Kim Watfield, avec reconnaissance, regardait craquer le généticien. Elle avait tenté en vain de ramener Jimmy à ses limites humaines afin de sauver son libre arbitre, mais elle ne représentait plus à ses yeux qu'une tentation vaincue. Elle ne pouvait plus rien pour lui, sinon assurer sa sécurité. Irwin aurait peut-être plus de chance.
« Quel est votre problème, Glasner ?» bougonna Buddy Cooperman. « Tout ce que vous nous reprochez, c'est dans le contrat de départ. C'est vous qui êtes venu nous chercher. »
Le conseiller scientifique haussa les épaules et retourna jouer sa boule de billard. Il ne supportait plus de se trouver dans ce chalet blindé truffé de micros et caméras parmi ces trafiquants d'âmes qui confondaient la formation spirituelle
avec l'emprise morale. Depuis leur tête-à-tête dans la pirogue, Jimmy l'évitait ostensiblement. Ce bref moment de connivence et de partage avait fait remonter dans le cœur d'Irwin tous les élans repoussés par son fils, et ce nouveau reniement lui était intolérable. D'autant plus que la douleur dans son crâne revenait plus aiguë chaque fois qu'il revoyait la scène au milieu du lac. Il ne comprenait pas ce qui avait provoqué l'hostilité de Jimmy. Peut-être l'explication rationnelle qu'il lui avait donnée sur la manière dont se produisent les guérisons spontanées. 4 ans plus tôt, il avait emmené son ex-femme en pèlerinage à Lourdes, en espérant la sauver du sida. Il avait étudié les dossiers médicaux du sanctuaire. Il était sûr que la volonté de survivre et la foi, amplifiée par l'espoir des milliers de malades présents, pouvaient débloquer dans le cerveau un mécanisme d'auto-guérison, l'envoi par l'hypophyse de ces fameuses molécules messagères, agissant sur les gènes constitutifs. Ça ne marchait pas pour tout le monde, mais quand ça marchait, c'était de cette façon. À l'analyse, l'eau de la grotte sacrée ne présentait aucune propriété thérapeutique. Et même s'il y avait action divine, c'était avec les moyens du bord. Glasner n'en démordait pas. La mort de Caroline n'avait rien changé à sa conviction. Jimmy s'était montré choqué par cette vision profane du miracle. « Et dans un arbre, ça se trouve où, l'hypophyse ?» avait-il répliqué d'un ton sec. « Ce n'est pas en remplaçant Dieu par une glande que je vais réconcilier les croyants. » La rigidité était devenue la réponse à ses doutes. Comme prévu, l'évêque Givens et les para-religieux qui le secondaient avaient transformé au fil des semaines le piscinier en diplomate œcuménique, polyvalent du salut, gardien du temple et de l'ordre établi, omettant soigneusement dans leur enseignement l'essentiel du message de Jésus, son appel constant à la rébellion et sa référence aux valeurs de l'enfance, la liberté, la confiance, l'insouciance, la transgression dans la joie. Jimmy avait tout en lui au départ, Irwin en était certain, et ses fonctionnaires de la CIA, du département d'État et du Pentagone étaient en train de le dénaturer, de le pasteuriser pour le mettre aux normes du Vatican, pour décrocher son autorisation de mise sur le marché et l'envoyer défendre leurs intérêts stratégiques en Terre Sainte. Mais de quelle manière? Par le verbe ou par la chair? Par la voix ou par le sang? En lui faisant répandre la parole de Dieu ou en le sacrifiant à leur cause? Y avait-il, derrière toute l'opération qu'Irwin avait déclenchée au mois de juillet, une mécanique diabolique dont il n'était qu'un rouage? Quand il l'avait mis en garde contre les agissements de ses professeurs, Jimmy avait répliqué « Ils savent très bien ce qu'ils font ». Il y avait dans sa réponse autant de pardon lucide que de soumission aveugle. Irwin s'était déchargé de tous ses dossiers sur ses assistants de la Maison-Blanche pour demeurer au chalet, mais c'était la dernière phrase que Jimmy lui avait dite.
« C'est une excellente idée, Lourdes, » déclara le général Craig en s'arrachant du canapé. « Ça sera le sas idéal avant la marche sur Rome. »